Ce soir, la France doit-elle revoir sa relation avec la Russie ? Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Une fois n'est pas coutume, un sujet de politique étrangère s'est invité dans le débat de la présidentielle française. D'habitude, c'est plutôt le consensus qui domine les questions diplomatiques. Mais avec la Russie, deux camps s'opposent aujourd'hui, chacun défendant une façon de dialoguer avec Moscou, selon qu'il considère Vladimir Poutine comme un allié ou comme un adversaire. Poutine, notre allié, il faut donc travailler avec lui, accompagner sa politique en Syrie, lever les sanctions prises par l'Union européenne en 2014 après l'annexion de la Crimée et établir un nouveau partenariat dans la lignée de l'alliance franco-russe à la fin du 19e siècle. Poutine, notre adversaire, il faut le combattre en soutenant ses opposants à l'intérieur de la Russie, maintenir les sanctions, poursuivre l'élargissement de l'Europe, voire de l'OTAN, ne pas avoir peur d'aller à l'affrontement car c'est la meilleure garantie pour le maintien de la paix. Alors depuis cet automne, chaque candidat est appelé à se positionner sur cette question. Il était donc logique que nous en fassions un des thèmes de notre partenariat mensuel avec le journal La Croix, partenariat consacré aux grands enjeux de la présidentielle. Alors la France doit-elle revoir sa relation avec la Russie ? C'est la question que nous posons ce soir à deux invités. Nicolas Tenzer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, vous présidez le CERAP, Centre d'études et de réflexion pour l'action politique, centre qui édite la revue Le Banquet, qui pour l'instant est mise en sommeil pour question de financement. C'est peut-être d'ailleurs l'occasion d'ailleurs d'appeler certains auditeurs voilà, qui sont aussi des lecteurs de la revue à contribuer à relancer Le Banquet. Si. Vous expliquez dans La Croix de ce jour que nos valeurs et notre sécurité sont menacées par la Russie. On va avoir bien sûr l'occasion de développer, de le faire en compagnie de notre deuxième invité, Aymeric Chopra. Bonsoir.
Bonsoir.
Député européen, vous avez été élu sur liste Front National, vous êtes désormais non inscrit, vous êtes géopolitologue, professeur invité à l'université Lomonosov de Moscou. Vous avez publié l'an dernier aux éditions Chronique, Chronique du choc des civilisations du 11 septembre 2001 à la guerre contre l'État islamique. Vous vous appelez justement à relancer une entente franco-russe. Et pour vous interroger ce soir, je suis comme chaque premier jeudi de chaque mois en compagnie de Guillaume Goubert. Bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Directeur du journal La Croix qui propose donc dans sa page débat du jour la question que nous posons ce soir à nos deux mêmes invités. Donc la France doit-elle revoir sa relation avec la Russie ? Alors peut-être avant que de se demander s'il faut revoir cette relation, il faut sans doute d'abord évaluer quelle est la nature de cette relation aujourd'hui. Comment est-ce que vous la qualifieriez, notre politique, c'est-à-dire celle de la France, aujourd'hui, Nicolas Tenzer, à l'égard de Moscou ?
Écoutez, je pense que c'est une bonne politique que personnellement je soutiens. C'est une politique qui consiste à dire que la violation du droit international, comme cela a été fait en Ukraine, avec non seulement l'invasion du Donbass, mais aussi l'annexion de la Crimée, n'est pas tolérable. Et la France a beaucoup plaidé pour la mise en place de sanctions au niveau européen. Que la politique que je qualifie de politique d'extermination en Syrie, d'abord par le soutien à Assad, auteur de crimes de guerre, puis par l'invasion directe et l'action directe militaire en Syrie, ne sont pas acceptables. Et donc je pense que la France a eu raison de défendre à la fois ses valeurs et de mener finalement une politique très claire, très ferme avec la Russie, qui d'ailleurs n'empêche pas le dialogue, puisque, il faut comme le repréciser, le dialogue bien sûr continue. Mais cette politique ferme, encore une fois, je l'approuve.
Alors de la clarté, de la fermeté selon Nicolas Tenzer dans la politique française à l'égard de la Russie, pour vous Aymeric Chopra ?
Je crois que c'est une impasse, cette politique de la France, depuis le gouvernement socialiste en particulier, parce que, tout simplement, la France est partie, dès le début des années 90, à vrai dire, d'un mauvais diagnostic de la géopolitique mondiale. Le monde est devenu multipolaire, il faut accepter cette réalité, et il faut discuter avec les puissances qui ont forcément des intérêts divergents. La diplomatie a été créée pour ça. La diplomatie, elle est là pour que l'expression des rapports de force ne se transforme pas par le bruit des armes. Elle est là pour que l'on se parle quand on n'est pas d'accord. Et le problème de la diplomatie française, c'est qu'elle est devenue non-diplomatie. Elle est devenue une sorte de gesticulation donneuse de leçons qui consiste finalement pour nos gouvernants socialistes en particulier à s'afficher avec ceux avec lesquels nous sommes d'accord et à ne pas parler avec ceux avec lesquels nous avons des désaccords, ce qui est complètement absurde et ça nous a mené à une impasse. L'impasse, elle est réelle aujourd'hui. La France est isolée, elle n'est pas crédible et on va même assister à une situation gravissime où les États-Unis et la Russie et la Chine pourraient parler sans que la France n'y soit en quoi que ce soit associée.
Donc ce que vous reprochez, Aymeric Chopra, ça n'est pas la nature du dialogue qu'aurait la France avec la Russie, mais l'absence de dialogue. Si il devait y avoir un dialogue, encore que Nicolas Tenzer sera peut-être en désaccord avec vous, mais de quelle nature devrait-il être ? Est-ce que ça devrait être un discours, comme le notait Nicolas Tenzer, justement, un discours de fermeté à l'égard de la Russie ? Parce que plaider pour un dialogue, ça ne veut pas dire qu'on est forcément amis.
Mais avant de parler des solutions, il faut s'entendre sur le diagnostic. Si vous parlez de fermeté par rapport à la crise ukrainienne en particulier, il faut être d'accord, et je pense que nous ne le serons pas avec Nicolas Tenzer, sur l'origine de la crise ukrainienne, qui a débouché sur une politique punitive de la France. La politique punitive avec des grands en particulier, avec des grandes puissances, ça ne sert strictement à rien. Non seulement nous sommes décrédibilisés, puisqu'on voit bien que ça ne débouche sur rien, Poutine peut faire abstraction d'une certaine manière de la France, malheureusement, aujourd'hui. Et il faut revenir au dialogue et il faut revenir sur les présupposés géopolitiques de la crise ukrainienne.
Nicolas Tenzer ?
Je pense que le dialogue, encore une fois, il existe déjà et il doit bien sûr continuer. Mais il faut faire la distinction entre dialogue et négociation. Je pense qu'on peut dialoguer avec la Russie, on le fait de manière ferme. Cela ne signifie pas qu'on puisse céder sur, encore une fois, des faits qui sont inacceptables, en l'occurrence la violation du droit international et les principes humanitaires. Je crois qu'effectivement, avec Aymeric Chopra, nous avons des différences fondamentales de valeurs. Je crois que les valeurs importent. Les valeurs de droit de l'homme, les valeurs de liberté, les valeurs européennes. Et je crois d'ailleurs que l'unité de l'Europe a été jusqu'à présent extrêmement claire, notamment en matière de sanctions, que la France et l'Allemagne, unies, ont décidé, encore une fois, et ont convaincu l'ensemble des partenaires européens qu'il fallait maintenir cette politique de sanctions. Maintenant,
parce qu'aujourd'hui, les valeurs de la France et les valeurs de l'Union européenne sont incompatibles avec celles de la Russie,
voilà,
de Vladimir Poutine.
Je pense effectivement qu'il y a un projet de civilisation entre l'Europe et Vladimir Poutine, je ne dis pas la Russie, parce que personnellement je suis très russophile, j'adore la Russie, et je fais toujours la distinction entre la Russie et le régime de M. Poutine. Et je crois qu'il y a effectivement une incompatibilité de civilisation. Nous ne sommes pas, encore une fois, des alliés. Et qu'il y a un certain moment où on peut dialoguer avec des gens avec lesquels on peut avoir des intérêts géopolitiques différents, certes, mais qui, lorsqu'ils ne partagent pas la moindre parcelle, disons, de valeurs, eh bien je crois que le dialogue, voire la négociation a fortiori, sont complètement, finalement, illusoire.
Guillaume Goubert.
Oui, je voudrais poser une question assez candide, mais est-ce que finalement la relation franco-russe a une importance réelle dans les relations internationales ? Je veux dire, est-ce que la France est un pays important pour la Russie, par exemple, Aymeric Chopra ?
D'abord, la relation franco-russe, ce n'est pas une mythologie romantique. Elle a une réalité historique. Hein. Elle a commencé en particulier avec des accords en 1892. Elle s'est traduite à plusieurs reprises. Et quand même, il me semble qu'il est important de rappeler que nous avons été dans le même camp que la Russie pendant les deux guerres mondiales. Et que aujourd'hui, nous faisons ou nous devrions faire la guerre avec la Russie contre un ennemi commun qui est une idéologie. Car les ennemis ne se sont pas les puissances. Les puissances, ça peut s'équilibrer. On peut discuter avec les puissances. Les ennemis, ce sont les totalitarismes, les idéologies, le nazisme hier, le totalitarisme islamique aujourd'hui. Et voilà, je crois qu'on se trompe d'ennemis et qu'on nous refait un petit peu le conte pour enfants de la démocratie contre les dictatures. Alors si nous voulons parler de démocratie, Nicolas Tenzer, et de droits de l'homme, vous savez, moi je partage ces valeurs, de la démocratie et des droits de l'homme. Le problème, c'est que ces valeurs de démocratie et de droits de l'homme, elles ont été bafouées essentiellement dans la politique internationale par les États-Unis depuis 1990. Car c'est la doctrine que vous défendez depuis 27 ans, qui est la doctrine du changement de régime, du regime change, qui a créé à l'échelle internationale des millions de morts. Ça n'est pas la politique russe qui aujourd'hui menace les Français dans leur chair, ce sont les islamistes qui sont le produit de cette politique.
Alors moi, il n'y a aucun problème d'atteinte aux droits de l'homme, de crimes de guerre qui sont causés par la Russie.
Si nous,
atteinte aux droits de l'homme à l'intérieur de la Russie et crimes de guerre en Syrie notamment.
Nous sommes sur France Culture, nous ne sommes pas sur une radio où l'émotion prévaut, mais la raison.
Oui.
Alors si on prend les sujets les uns après les autres de manière raisonnée, à savoir la question de la démocratie, la question des droits de l'homme. La question de la démocratie, on nous rabâche en permanence que la Russie de Poutine ne serait pas une démocratie. Alors, elle n'est certainement pas une démocratie exemplaire, telle qu'on pourrait l'espérer. Mais enfin, voilà un président qui est effectivement au pouvoir depuis le début des années 2000. Madame Merkel est au pouvoir sans discontinuité depuis 2005. On ne dit pas que l'Allemagne n'est pas une démocratie. C'est un régime pluripartite. La Russie, c'est un régime qui a des institutions solides. Il a un parti qui est dominant, qui gagne les élections. Le journal Le Monde n'a jamais contesté les élections gagnées par le président Poutine. Il jouit d'une popularité réelle. Et même s'il y a des choses qui peuvent nous paraître, c'est vrai, imparfaites, je ne vois pas en quoi on pourrait assimiler, comme le fait Nicolas Tenzer, la Russie à une sorte de dictature.
Eh ben, il va sans doute nous le dire, Nicolas Tenzer.
Écoutez, moi, je crois qu'il y a plusieurs choses dans ce que dit Aymeric Chauprade avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Enfin, il y a un accord de base, bien sûr, combattre le terrorisme, et notamment l'État islamique, évidemment, je suis entièrement d'accord, c'est une abomination et il faut exterminer clairement, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, l'État islamique.
Mais, est-ce qu'on ne partage pas un minimum de valeurs ?
Mais ce que je constate malgré tout, c'est que la Russie ou le régime d'Assad n'ont pas véritablement frappé Daesh en Syrie.
Je ne suis pas d'accord.
10% des frappes concernent uniquement l'État islamique. L'essentiel, encore une fois, tout ceci a été parfaitement mesuré par un certain nombre d'experts, par, encore une fois, le repérage de l'ensemble des frappes effectuées tant par le régime que par la Russie à partir du moment où elle est intervenue. Et en fait, ces frappes ont concerné essentiellement les rebelles opposés au régime de Bachar el-Assad. Donc, encore une fois, si la Russie vise l'État islamique, bien sûr, nous serons totalement d'accord. Et il y a eu un moment où je pense que la France, et je crois que c'était illusoire de le penser, y compris la part du gouvernement français, pensait que la Russie finalement jouerait le jeu. Malheureusement, elle ne l'a pas fait. Alors, en ce qui concerne la démocratie en Russie, je pense que c'est un autre sujet. La démocratie en Russie, ce ne sont pas uniquement des élections, mais ce sont également un ensemble de lois, un ensemble de pratiques. Ce que je constate, c'est que le nombre de meurtres de dissidents, de journalistes, de défenseurs des droits de l'homme en Russie, je n'accuse pas directement le président Poutine, a été quand même absolument considérable. Je constate que sur une partie du territoire russe, à savoir la Tchétchénie, il y a eu une guerre qui était véritablement une guerre d'extermination absolument abominable. Je constate ensuite qu'un certain nombre...
Je termine juste sur un dernier point.
Ensuite, on constate qu'un très grand nombre d'ONG, en vertu de la loi russe sur les... on appelle les agents étrangers, ne peuvent pas s'exprimer. Et que, encore une fois, une grande partie de ces personnes ne peuvent plus s'exprimer librement, sont persécutées, sont obligées dans certains cas de fermer. Et ça, je considère que ce ne sont pas des institutions démocratiques.
Et donc, au nom de ces atteintes à la démocratie, la France devrait avoir quelle...
Je ne suis pas en train de dire que la France va intervenir. Ah, je pense qu'il va y avoir...
Je pense qu'il
faut effectivement soutenir. Je pense qu'il faut aider les médias libres, ce qui s'appelle l'aide à la démocratie. Je ne dis pas de renverser le régime, bien sûr. Il ne s'agit absolument pas de cela. Et je pense qu'il faut le dire. Moi, ce que j'ai évoqué déjà dans un livre il y a plus de 6 ans, c'est que quand un pays se comporte de cette manière, c'est probablement une très, très mauvais pronostic, si j'ose dire, sur la politique étrangère qui aura nécessairement tendance à devenir agressive, ce qui a été le cas.
Aymeric Chauprade.
La Russie ne mène pas une politique d'influence plus agressive que les États-Unis depuis 1990 pour changer les régimes dans le monde. Ce sont quand même les États-Unis qui ont cherché à développer cette doctrine du changement de régime. Que je sache, il y a eu l'Irak, il y a eu la Yougoslavie, il y a eu la Libye, il y a eu la Syrie. On ne compte pas les guerres américaines et on ne compte pas les opérations clandestines, le monde du renseignement vous le dira bien, qui ont consisté à déstabiliser des régimes qui n'étaient pas partisans en particulier de l'OTAN. Je pense aux révolutions colorées. Que l'institut que vous présidez, l'institut Aspen, un institut américain, c'est cet institut donc qui a défendu ces révolutions colorées, c'est-à-dire la transformation des régimes de pays d'Europe centrale post-soviétique en des régimes otaniens. Vous savez, c'est ça l'origine, Nicolas Tenzer, de la réaction russe. C'est cette progression otanienne jusqu'aux frontières de la Russie et même d'une certaine manière de la Chine en Asie centrale qui a provoqué la réaction du président Poutine, car la Russie, et c'est bien normal, comme toutes les puissances, a des intérêts dans son étranger proche, cherche à défendre ses intérêts. Elle n'a pas bafoué, cette Russie, le droit international, davantage que ne l'ont fait les États-Unis en lançant une guerre sans mandat de l'ONU contre l'Irak. Elle n'a pas bafoué les droits de l'homme en Syrie davantage que ne l'ont fait les Américains en Irak avec des bombardements contre les civils à Fallujah. La guerre est hélas terrible, elle fait des morts sous les bombes américaines comme sous les bombes russes. Et l'argument argument qui consiste à, de manière manichéenne, diaboliser la Russie en prétendant qu'elle serait une sorte de monstre qui foulerait du pied à la fois la démocratie, les droits de l'homme, le droit international, ne tient pas la route une seconde quand on regarde la géopolitique du monde depuis 1990.
Guillaume Goubert.
Nicolas Tenzer, est-ce que malgré tout à l'origine de ces difficultés, il n'y a pas le fait que la Russie a été, disons, maltraitée à la suite de la chute du régime communiste ? Est-ce que elle n'a pas, il n'y a pas eu une forme d'humiliation de la Russie dont aujourd'hui elle se, contre lequel aujourd'hui elle se rebellerait ?
Écoutez, je pense qu'il n'y a pas eu, ça fait partie effectivement du récit russe, du récit finalement que M. Poutine cherche à défendre, selon lequel la Russie aurait été humiliée. En fait, c'est tout le contraire qui s'est produit. D'abord parce que en 1997, comme vous le savez, vous avez parlé de l'OTAN, la Russie a été invitée à signer un partenariat, d'ailleurs qui dans le, encore une fois, dans les textes existe toujours, avec l'OTAN. Et je me rappellerai toujours au quartier général de l'OTAN à Bruxelles, vous avez une photo extraordinaire entre le secrétaire général de l'OTAN de l'époque et le président Elstein à l'époque. Et tout ceci, encore une fois, augurait de relations extraordinairement coopératives avec la Russie. Et moi, je suis favorable à ces relations coopératives à moyen terme. Je pense d'ailleurs que c'est l'intérêt de la Russie d'avoir une politique coopérative et pacifique.
Mais en même temps, Nicolas Tenzer, est-ce que par la politique d'élargissement de l'Union européenne et d'élargissement de l'OTAN n'étaient pas quand même des politiques assez agressives par rapport à ce qu'avait pu représenter justement la Russie ?
Je crois encore une fois qu'il y a deux choses. D'abord, il faudrait aussi parler du reset américain qui a été quand même la deuxième tentative. Je dirais encore une fois, les États-Unis, à partir de là, dès que M. Obama est arrivé au pouvoir, ont voulu reprendre cette liaison, etc. Bon, alors, en ce qui concerne effectivement les élargissements de l'OTAN, alors l'Union européenne c'est différent. Il y a une vocation pour l'Union européenne de s'élargir à tous les pays à partir du moment de la zone européenne, à partir du moment où ils respectent un certain nombre de principes, de règles du droit, et ça ne vise pas, ce n'est pas une alliance que je sache, l'Union européenne n'est pas du tout agressive à l'égard de la Russie. Ensuite l'OTAN. L'OTAN c'est une alliance défensive, il faut le rappeler, ce n'est pas une alliance agressive. C'est une alliance qui vise à préserver l'autonomie des États contre un danger extérieur, quel qu'il soit. Et donc, ce n'est pas du tout dirigé contre la Russie.
Et le bouclier antimissile, Nicolas Tenzer,
un bouclier, ce n'est pas quelque chose d'offensif, que
bien
je sache. Ce n'est pas un système,
encore
une fois, d'armes offensives. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que si vous regardez les forces de l'OTAN et les forces positionnées à la frontière de la zone OTAN ou de la Russie par la Russie, vous avez une très grande différence, et une détrimence au détriment de quand, de qui ? Au détriment de l'OTAN. Donc je crois qu'il faut bien voir cela. Alors ensuite, sur les États-Unis, permettez-moi juste de répondre une seconde sur les États-Unis. Sur les États-Unis, moi je ne suis pas en train de défendre la politique américaine en Irak. Maintenant, quand vous dites que ce sont, des mauvais espions qui ont...
Vous seriez un peu isolé maintenant, parce qu'avec le président Trump, il va peut-être Nicolas Tenzer nous mettre d'accord, le président Trump, parce que lui, il considère que les États-Unis, jusqu'à présent, avec l'administration Obama, ont eu une politique contre-productive et agressive avec la Russie. Et c'est précisément lui, en tant qu'Américain, et dans l'intérêt des États-Unis, parce qu'il ne se trompe pas d'ennemi. Pourquoi le président Trump est en train de revoir, ou va essayer de revoir cette politique ? Parce qu'il considère que le principal défi pour les États-Unis, ce n'est pas la Russie, c'est la Chine, qui peut devenir le numéro un mondial à la place des États-Unis dans les décennies à venir. Il ne se trompe pas d'adversaire. Et ça nous montre qu'il n'interprète pas du tout la Russie comme une menace.
Mais Ebrahim Chopra, en quoi avoir traité différemment la Russie après la fin de l'URSS aurait modifié les relations qui sont celles aujourd'hui entre ce pays et puis appelons-le le bloc occidental, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis.
Si vous parlez de la France en particulier, de la politique française, elle a suivi essentiellement deux pays, la France, depuis à peu près 15 ans. Elle a suivi les États-Unis. Elle est passée d'une logique que je soutiens, qui est une logique d'alliance avec les États-Unis, à une logique d'alignement. C'est la grande différence entre Nicolas Tenzer et moi. Moi, je soutiens l'alliance avec les États-Unis, mais pas l'alignement. Lui soutient l'alignement sur la politique des États-Unis.
Non, vraiment pas.
Si vous soutenez la région, on va y revenir. Mais je poursuis. Et le deuxième État, c'est l'Arabie Saoudite, parce que c'est précisément ce qui a fait dévier la France de sa politique traditionnelle, qui est une politique d'équilibre de la puissance, notamment entre les États-Unis et la Russie ou les États-Unis et la Chine. La France a un rôle à jouer dans l'équilibre du monde. Elle aura un rôle à jouer dans le Pacifique, par exemple, sur les questions maritimes entre les États-Unis et la Chine. Et elle a un rôle à jouer en Europe, dans l'équilibre de la puissance. Elle n'a pas tenu ce rôle, elle a additionné sa puissance d'une certaine manière aux États-Unis, et c'est très grave, parce que le résultat, c'est qu'elle est dans une impasse.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
La France doit-elle revoir sa relation avec la Russie? C'est la question que nous posons ce soir à Nicolas Tenzer et à Aymeric Choprat, émission en partenariat avec le journal La Croix, représenté par son directeur Guillaume Goubert. Nicolas Tenzer et Aymeric Choprat qui se sont exprimés justement depuis déjà ce matin dans les pages du journal, dans lesquelles vous dites notamment, Nicolas Tenzer, que la Russie de Vladimir Poutine menace notre sécurité. Qu'est-ce que vous entendez par la menace de notre sécurité? Est-ce que c'est une menace qui pourrait être une menace territoriale, c'est-à-dire une Russie qui pourrait avoir des velléités d'expansion de son territoire, qui pourrait aller jusqu'à vouloir grignoter une partie du territoire de l'Union européenne?
Alors, je ne suis pas en train de dire que la Russie a le projet d'envahir la France, bien sûr. Là, ce serait grotesque. Je pense qu'il y a
Est-ce que la France
volonté...
doit se préparer non, à un éventuel conflit avec la Russie?
Non, on n'est pas encore une fois dans... On est sur des formes de conflit qui ne sont pas des formes de guerre. Je crois qu'on est sur une logique qui est complètement différente. En revanche, ce que je constate, c'est que la Russie de Vladimir Poutine, et il faut chaque fois le repréciser, cette Russie-là mène une forme de guerre de l'information d'abord et vise, je dirais, de plus en plus à ce que des hommes politiques, des médias, des think tanks adoptent ces causes, propagent un discours faux. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu avec le Brexit, on le voit dans un certain nombre de pays européens désormais, menace directement un pays qui a fait sa révolution au nom de la liberté aux frontières de l'Union européenne, à savoir l'Ukraine, et a envahi, et c'était le cas en 2008, déjà un autre pays, non pas membre de l'Union européenne, mais quand même européen, à savoir la Géorgie. Et je trouve que ça, ce sont des menaces effectivement sur le territoire européen, ce sont des menaces pour la cohésion de l'Europe, et c'est une menace directe, notamment par également l'appui donné à un certain nombre de partis, soit d'extrême droite, soit d'extrême gauche, mais en tout cas anti-européens, c'est une menace également pour les valeurs fondamentales qui sont les nôtres.
Est-ce que vous y ajouteriez une c'est forme ça. De cybermenace, c'est-à-dire
bien
avec
sûr,
les accusations
aussi.
Qui sont
bien
faites à la Russie suite à l'élection présidentielle américaine, on dit que pour la présidentielle française, il y a aussi peut-être une forme d'inquiétude.
Il faut bien distinguer. Il y a d'un côté effectivement les cyberattaques, effectivement, mais de l'autre côté, il y a aussi encore une fois des menaces qui sont liées au caractère extraordinairement invasif de la propagande russe qui vise à faire légitimer son action. Et puis encore une fois, c'est une menace. Et là, encore une fois, nous avons un désaccord, je crois, assez fort avec Aymeric Choprat. C'est que c'est une menace aussi directement pour nos valeurs, parce que le projet de la Russie de Poutine est opposé aux valeurs de liberté, aux valeurs de droits de l'homme, aux valeurs de lumière, aux valeurs fondamentales, je crois, des sociétés occidentales, en tout cas, qui sont celles de l'Europe jusqu'à présent. Et donc, c'est un changement, encore une fois, de paradigme auquel nous assistons, qui me paraît très dangereux pour, encore une fois, l'idée de la civilisation à laquelle je crois.
Alors vous, Aymeric Choprat, vous n'êtes pas du tout dans cette, on l'a compris depuis le début de
l'émission,
dans cette approche-là.
Oui.
J'ai découvert juste en préparant l'émission, parce que ce sont des phrases aussi que j'ai trouvées assez très, très fortes, que vous étiez intervenu à la Douma, donc au Parlement russe à Moscou, en juin 2013. Intervention dans laquelle vous dénonciez la guerre idéologique que mènent les Occidentaux contre la Russie, et vous concluiez votre intervention en disant « Mesdames et messieurs les députés, la Russie est devenue l'espoir du monde contre le nouveau totalitarisme ». C'est-à-dire
oui,
que pour vous, la Russie est là pour nous protéger?
Non, mais c'est un discours, il faut le remettre dans son contexte, qui est évidemment forcément un peu idéologique, il est politique, donc c'est un discours un peu de mobilisation. L'idée est la suivante, c'est que la Russie, c'est vrai, aujourd'hui, si on parle des valeurs, défend, contrairement à ce que dit Monsieur Tenzer, défend un certain nombre de valeurs qui font partie de ce que nous sommes, des valeurs qui sont héritées du christianisme, qui ne sont pas du tout incompatibles avec les Lumières. Moi, les Lumières font partie du patrimoine historique de la France, de nos valeurs, au même titre que notre héritage chrétien. Mais la Russie défend ses valeurs de la même façon. Je ne vois pas en quoi on peut la diaboliser comme on le fait. Alors je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit, parce qu'il y a quand même, pardonnez-moi, mais un certain nombre de contre-vérités quand on parle des cyberattaques et quand on joue avec ce fantasme de la Russie qui... Bon, la Russie espionne, certainement, comme les États-Unis, comme toutes les puissances du monde. Toutes les grandes puissances espionnent.
Ah là, il n'est pas question d'espionnage.
Non, mais attendez. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, nous avons eu l'affaire de la NSA qui espionnait Mme Merkel. Là, nous parlons de faits avérés. Quand nous parlons des cyberattaques, on parle de démocrates qui pointent du doigt la Russie, la communauté de renseignement américain, le FBI, n'a jamais validé les théories actuelles que les cyberattaques auraient été menées par la Russie pour influencer le jeu politique américain.
Il y a des auditions aujourd'hui au Sénat américain, justement, des services de renseignement pour savoir davantage.
Il y a un débat. Que je sache, ni le président Trump ni les républicains ne sont d'accord avec cette interprétation. Donc ce ne sont pas tous les Américains et ça n'est pas toute la communauté du renseignement. Par contre, quand on parle d'espionnage des chefs d'État européens par notre allié américain, par la NSA, on est dans des faits avérés. Donc moi je veux bien que... je ne suis pas en train de dire que la Russie est parfaite, qu'elle ne fait rien. Elle a une politique d'influence, évidemment. Elle a une politique de renseignement, évidemment, mais pas plus que les États-Unis n'en ont, et peut-être certainement moins. Quant au think tank dont vous parlez, qui influencerait la vie, pardonnez-moi, mais je ne veux pas revenir sur vos activités qui sont tout à fait respectables, mais vous-même en êtes l'incarnation de l'influence des États-Unis et de leur programme en France, avec les Young Leaders, avec Aspen, que vous présidez.
Ça fait un certain temps, mais je pourrais vous en parler.
Attendez, je vous
de
en
toute
fais
manière,
pas,
c'était pas, non, mais je vous pas, en fais pas, pas grief. Je pourrais vous dire, c'est pas un institut américain.
Non, mais de la même façon que moi, je suis professeur invité à titre gracieux, d'ailleurs, je tiens à le préciser, à Moscou. C'est pas parce qu'on a des affinités avec un pays qu'on va se renvoyer la balle en disant qu'on est un agent d'influence ou un relais d'influence. Donc, dépassionnons ce débat. Cessons de croire que parce que la Russie a des amis, des invités, des gens qui parlent à la Douma, etc., elle est dans une politique de mainmise sur l'Europe. Elle est dans une politique. Nous sommes dans une société de l'information, Nicolas Tenzer. C'est normal. Chaque État développe son point de vue, ses analyses.
Guillaume Goubert.
Vous parliez de faits avérés tout à l'heure, Émeric Choprade. Je voudrais vous interroger sur un fait avéré qui est l'annexion de la Crimée par la Russie. Est-ce qu'il faut entériner cette annexion, selon vous ?
Je pense que nous serons, à un moment donné, amenés à considérer que la carte des États, la carte des frontières, effectivement, change. Il y a des moments dans l'histoire, et en particulier quand il y a eu un référendum d'autodétermination qui, de manière très claire, a exprimé la volonté du peuple de Crimée...
On pourra y revenir.
Mais je suis parfaitement à l'aise pour y revenir. D'autant plus que j'étais le soir du 16 mars 2014 sur la place centrale de Simferopol, parce que ça n'allait pas de soi pour moi d'ailleurs. Quand on change la carte des États, comme nous l'avons fait, Nicolas Tenzer, au Kosovo, comme nous l'avons fait en créant avec les accords de Dayton en 1995 la Bosnie-Herzégovine, quand on change la carte des États, bien sûr que cela ne va pas de soi. Mais la Russie...
Dayton, c'était un accord international.
Non, mais ce n'est pas un accord international, c'est un accord occidental.
Kosovo, la création du Kosovo a été validée par les Nations Unies.
C'est un accord occidental, mais pas la guerre d'Irak. Bon. Donc, si vous voulez... Moi, encore une fois, bien sûr que ça peut heurter la question de la Crimée, mais il y a un référendum et ce qui compte, c'est quand même ce que pense le peuple.
A posteriori.
Non, c'est un référendum qui a exprimé de manière claire la volonté de réunification. Alors, les uns parleront d'annexion. Moi, je parle de réunification. C'est le sens de l'histoire. De la même façon que l'Allemagne s'est réunifiée, il était logique qu'à un moment donné, cette province de Crimée qui avait été donnée dans un contexte très particulier à la République socialiste d'Ukraine, dans l'URSS, revienne à la mère patrie. C'était inéluctable historiquement.
Nicolas Tenzer, votre point de vue, vous, sur cette annexion de la Crimée et sur les sanctions qui ont été prises par la suite par l'Union européenne et qui sont toujours en cours.
Alors, encore une fois, je pense que sur la Crimée, en termes de droit international, les choses sont claires. Il s'agit d'une annexion qui est clairement illégale. Quant au référendum qui a eu lieu par la suite, un référendum dans un pays occupé, on sait quand même à peu près ce que cela donne, hein, surtout avec des pressions sur tous ceux qui ne sont pas d'accord. Ensuite, il faudrait quand même rappeler que lors de l'indépendance de l'Ukraine, majoritairement, les habitants de la Crimée se sont prononcés en faveur de la création de l'Ukraine. Et ce référendum-là, qui est quand même incontestable sur le plan du droit international, je crois que c'est un référendum qui doit prévaloir. Alors certains disent, oui, ben effectivement, après, il y a des tas de justifications. Encore une fois, en termes de droit international, nous ne pouvons pas accepter les justifications qui sont d'ailleurs extraordinairement contestables sur le plan historique. Je crois qu'il y a un principe quand même de base, c'est que le droit international doit être respecté. C'est quand même la première fois qu'un grand État, a fortiori membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, envahit annexe une partie d'un autre État, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment sans précédent depuis l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1939.
Il n'a pas envahi la Crimée. La Crimée n'a pas été envahie par la Russie. Ce sont les autorités locales qui ont organisé un référendum, lequel a été gagné dans le sens de la
En termes chronologiques, je suis désolé, en termes chronologiques, il y a d'abord eu invasion, puis il y a eu référendum. C'est quand même quelque chose qui est complètement différent. Il y a d'abord eu l'invasion, encore une fois, puis le référendum.
Il
n'y
a pas eu d'invasion
différent.
En Crimée.
Des sanctions ont été prises, notamment par l'Union européenne en 2014. Elles sont prolongées pour l'instant jusqu'en juillet 2017. Est-ce que vous considérez l'un et l'autre, alors quoi, qu'il faut les maintenir, qu'il faut les lever, mais sous condition, ou qu'il faut les lever sans la moindre contrepartie, Nicolas Tenzer?
Alors d'abord, je pense qu'il faut rappeler qu'il y a deux régimes de sanctions. Il y a un régime de sanctions qui est lié à la Crimée, et il y a un régime de sanctions qui est lié à l'invasion du Donbass, qu'on appelle en général...
Il n'y a pas d'invasion non plus
Donbass. L'armée russe est là.
L'armée russe est là.
Et effectivement, alors, vous pouvez dire le soutien à des séparatistes, entre guillemets, il faudrait voir effectivement qui...
Il y a des soutiens des deux côtés, Nicolas Tenzer. Essayons d'avoir une vision objective des choses. Il y a des interactions des deux côtés. Vous savez très bien que le renseignement américain, des éléments de force spéciale ont aidé l'armée ukrainienne et le pouvoir central de Kiev, de la même façon que le pouvoir russe peut aider...
Je reviens sur la question posée. Les sanctions. Moi, personnellement, je suis depuis le début favorable à ce que ce double régime de sanctions soit maintenu tant que la Crimée ne sera pas récupérée par l'Ukraine, parce que, encore une fois, la Crimée, c'est l'Ukraine. Et deuxièmement, tant que les accords de Minsk, dont on pourra discuter, je ne suis pas nécessairement à 100% d'accord avec le contenu des accords de Minsk, c'est un autre sujet. Mais tant que les accords de Minsk ne seront pas également totalement respectés. Et je crois que l'Union européenne doit absolument tenir bon. Sinon, encore une fois, l'Union européenne, l'Europe, terre de principe, finalement, s'érodera complètement. Ce que disait l'ancien ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, je trouve que c'est une très belle phrase, disait finalement « Le destin de l'Europe se décide en Ukraine » et je crois que cette phrase-là, je la fais mienne très volontiers.
Qu'est-ce qu'on fait des sanctions, Aymeric
Chopra ? D'abord, sur la terre de principe, les principes, on les voit pas beaucoup quand l'Arabie Saoudite massacre au Yémen. Apparemment, ça vous émeut beaucoup moins que ce qui s'est passé.
Si vous regardez mon fil Twitter, j'ai beaucoup dénoncé.
Manifestement, ça ne dérange pas l'alliance franco-saoudienne que le massacre de ces populations civiles au Yémen. Donc, vous savez, le deux poids deux mesures annihile les arguments idéalistes et nous ramène souvent dans le réalisme. Le réalisme, ce sont les intérêts géopolitiques. Le fait qu'il y ait des massacres ailleurs ne justifie pas qu'on accepte. Non, pas du tout. Mais je dis simplement que ça annule quand même ou ça atténue au moins l'argument idéaliste qui consiste à nous mettre d'un côté simplement sur la question humanitaire. Sur les sanctions, moi je veux dire qu'elles sont à la fois injustes et contre-productives. Elles sont injustes d'abord parce que, je le répète, la politique punitive n'a aucun sens avec un État comme la Russie. Ça n'a absolument aucun sens et ça n'a eu aucun effet. Elles sont contre-productives parce qu'en plus, on se tire une balle dans le pied. Les effets économiques pour notre secteur agricole en particulier sont catastrophiques. On a perdu au moins 1 milliard par an pour l'agriculture française.
Je reviens savoir d'où ce chiffre, mais enfin...
Non, mais il y a un certain nombre d'études qui sont faites. Prenez les chambres de commerce dans le secteur laitier, dans le secteur fruitier, je peux vous faire la liste. Et les effets d'ailleurs directs et indirects, parce qu'il faut voir aussi que ça bénéficie par exemple à l'agriculture polonaise, ces sanctions qui peut réorienter ce qu'elle exportait auparavant vers la Russie du côté des marchés européens au détriment de l'agriculture française. Donc les effets directs comme les effets indirects sont extrêmement graves. Et il n'y a pas que l'agriculture. Il y a la coopération en matière de défense qui est très importante, que nous développions avec le Mistral. Ça a été une grande erreur du gouvernement socialiste que de nous asseoir sur notre parole et de briser ce contrat qui allait inaugurer une véritable coopération stratégique avec la Russie. Et ça n'est sans doute pas un hasard si nos amis américains ont mis la pression comme ils l'ont fait pour casser cette coopération. Et donc nous sommes aujourd'hui, je le répète, dans une impasse en termes de politique étrangère avec la Russie et plus généralement avec le monde, puisque nous sommes à la veille d'un possible rapprochement, je ne cesserai de le répéter, entre les États-Unis et la Russie. Alors qu'allons-nous faire? Et deuxièmement, nous sommes en plus pénalisés parce que pendant que les sanctions courent, les Russes sont en train d'améliorer leur agriculture, de transférer des savoirs faire de manière à se passer dans les 2 à 3 ans qui viennent des exportations européennes. Et il se tourne en plus avec les nouvelles routes de la soie de plus en plus vers la Chine. Donc nous sommes perdants sur tous les plans.
Est-ce qu'il n'y a pas en tout cas la nécessité, Nicolas Tenzer, au moins d'évaluer l'impact de ces sanctions pour voir si au-delà des principes qui ont régi le fait qu'elles ont été prises, ça n'est pas, comme le dit Aymeric Chopra, contre-productif pour ceux qui les ont prises et notamment pour la France?
Alors je ne pense pas effectivement que les chiffres alarmistes et les conséquences alarmistes que donne Aymeric Chopra soient exactes, mais effectivement il faudrait un débat beaucoup plus long là-dessus.
Vous donnez les chiffres de la Commission européenne, 4,7 milliards d'euros de perdus dans le secteur de l'agriculture pour l'Union européenne sur la dernière
écoutez,
année.
Écoutez, moi honnêtement j'ai pas vu...
C'est la Commission européenne, donc à moins
attendez,
que vous
j'ai pas
contestiez.
Vu ces derniers chiffres. Mais en tout cas, en ce qui concerne, je dirais, les sanctions, je crois qu'il faut bien savoir que ce n'est pas effectivement la panacée. Personnellement, encore une fois, si on revient sur une autre politique qui eût été possible, mais sans doute que l'Union européenne ne pouvait pas prendre toute seule, ce aurait été d'avoir une politique beaucoup plus ferme de contrôle, une forme beaucoup plus ferme, je dirais, de riposte, éventuellement même militaire en Ukraine, a fortiori. Je pense que le président Hollande en Syrie avait pris la bonne décision en 2013, lorsqu'il avait dit il faut arrêter et il faut clouer les avions d'Assad au sol. Et malheureusement, on le sait bien, le président Obama n'a pas suivi. Ça, c'est sur la Syrie.
Une riposte militaire en Ukraine.
Je pense qu'il fallait avoir une politique de coopération beaucoup plus claire pour empêcher, je dis bien pour empêcher, c'est une question de défense, c'est une question d'offensive.
C'est intéressant. Les auditeurs constateront qu'au moment où nous sommes frappés dans nos chairs par un véritable ennemi qui est le terrorisme islamique.
Ça n'empêche pas.
Vous proposez de mettre en péril la paix mondiale.
Je dis bien la paix mondiale. Pourquoi?
En nous attaquant directement à une puissance nucléaire, puissance du Conseil de sécurité. Je pense qu'il y a un principe de raison dans la diplomatie française et dans les équilibres mondiaux. Ce que je dis n'est pas...
La Russie a bien pris ce risque.
La Russie était dans une confrontation avec l'Ukraine. Que je sache, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN déjà, donc il n'y a pas de mécanisme...
L'article 5 ne pouvait pas s'appliquer, on est tout à fait d'accord.
Voilà.
Il y avait une possibilité, encore une fois, de mettre des forces d'interposition, je pense, beaucoup plus fortes. Ça ne voulait pas dire, encore une fois, attaquer la Russie. Si, évidemment, on n'en est pas là.
Le problème, c'est qu'il faut revenir à l'origine du coup d'État. Il y a eu un coup d'État contre un gouvernement qui était légal en Ukraine. Ce coup d'État a été soutenu de notre côté, malheureusement. Et c'est ça qui a provoqué la réaction russe. Parce que quand vous mettez à bas la légalité d'un président qui valait ce qu'il valait, on est bien d'accord, il était corrompu, mais comme à peu près tous les présidents ukrainiens qui s'étaient succédés. Ce n'est pas une raison pour le mettre par terre et récolter ce que nous avons récolté avec la réaction de la Russie.
Alors laissons peut-être juste terminer ce que disait Nicolas Tenzer.
Oui, je pense effectivement que c'est le peuple ukrainien, ce n'est pas effectivement, ça c'est de la, effectivement c'est de la théorie à mon avis totalement fausse, ce n'est pas effectivement les forces étrangères, ni la CIA, ni qui que ce soit, qui a décidé de mettre le gouvernement Yanukovych par terre. C'est encore une fois, c'est une révolution du peuple ukrainien qui s'est faite pour des raisons extrêmement fortes, qui s'est faite au nom encore une fois de valeurs que personnellement je partage. Alors certes, ce n'est pas légal.
Vous êtes le dernier à croire que le Maïdan est une révolution spontanée. Vous avez travaillé comme moi sur les révolutions colorées, vous savez qu'elles sont pour partie liées à des mécanismes intérieurs de frustration des régimes qui sont usés et pour partie des interactions avec des agents extérieurs qui orientent l'histoire. C'est le propre de toutes les révolutions.
Je ne crois
pas
ces
orientations
extérieures.
Ça s'est passé pour le Maïdan comme en Géorgie, comme dans toutes les révolutions colorées.
Bien, je crois effectivement qu'il faut. Alors, peut-être quand même, je voudrais juste répondre une seconde sur le Yémen, si vous permettez. Je pense que sur le Yémen, effectivement, c'est une chose qui se passe est atroce. Le régime de l'Arabie Saoudite est indéfendable. Moi-même, j'ai très souvent demandé la libération d'un certain nombre de prisonniers politiques en Arabie, dont Raif Badawi et quelques autres. Et je pense effectivement que la politique des droits de l'homme, elle doit être universelle à l'égard de tout le monde. Et là, il y a des progrès à faire.
Et s'agissant de l'Arabie Saoudite, j'en profite pour vendre un petit peu nos anciennes émissions et vous renvoyer à la réécoute d'une émission que nous avions intitulée « L'Arabie Saoudite est-elle infréquentable ?» dans laquelle on évoquait justement toutes ces questions. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce débat passionnant et passionné. Ça, on l'aura entendu, que vous pouvez réécouter sur notre site franceculture.fr, la page du Grand Moudre, que vous pouvez lire dans les pages de La Croix, notre partenaire, donc comme chaque premier jeudi du mois. Merci beaucoup Guillaume Goubert de m'avoir accompagné pour poser des questions à Aymeric Chauprade et à Nicolas Tenzer. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Cyril Baer. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Pierrick Monsigny. Demain, ce sera le Club des idées du vendredi avec la question suivante. La post-vérité menace-t-elle la présidentielle ?